Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. L'intelligence artificielle gagne du terrain. On a récemment eu DALL-E et Lensa AI pour la production d'images numériques. Voici qu'un nouvel outil, ChatGPT, est capable de répondre à nos questions et de produire des contenus écrits avec érudition et même avec un certain style. Cet engin puissant fascine autant qu'il inquiète et plusieurs observateurs y voient un point tournant dans notre rapport aux technologies. Mais chose certaine, malgré les défauts de l'outil, il semble qu'on va devoir composer avec, on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Quel est le réel potentiel de l'outil ChatGPT et aussi, quels en sont les risques? On reçoit notre collègue journaliste Alain Mekena pour en discuter. Bonjour Alain.
Bonjour Philippe.
Pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore eu la chance de tester la bête, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est ChatGPT?
Bien, c'est une nouvelle application d'intelligence artificielle qui a vu le jour au début décembre, donc ça fait pas très longtemps, et qui a vraiment pris l'Internet d'assaut, tellement que un peu avant qu'on se parle, on l'a essayé, puis elle était surchargée, donc vraiment, c'est gros. C'est essentiellement un outil de clavardage extrêmement sophistiqué auquel on peut poser des questions dans un langage tout à fait naturel, comme on se parle en ce moment, mais elle écrit, et elle répond à son tour de façon tout aussi naturelle, comme si un humain nous répondait en fin de compte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est très sophistiqué, mais qui est accessible par tout le monde. Il faut juste s'inscrire sur le site de son créateur, une agence qui s'appelle OpenAI. On peut donc concrètement voir le potentiel de l'outil, non seulement en français, mais aussi dans des langages de programmation. Donc, on peut lui demander une réponse sur un sujet d'actualité en français, mais on peut aussi lui demander de programmer un plugin pour un site web, et elle le fait. Et elle peut carrément créer des sites web entiers et des bouts de code plus sophistiqués à la demande. Elle est, écoute, tellement performante qu'on parle de remplacer littéralement des programmeurs ou des gens qui travaillent dans un bureau et qui feraient des tâches très cléricales là, qui sont à base de texte essentiellement.
ChatGPT a remporté un succès instantané depuis son lancement. On parle de plus d'un million d'utilisateurs inscrits. Moi, j'en ai vu des tonnes d'exemples d'utilisation sur mes réseaux sociaux. Mais Alain, je me demandais, qui est derrière cette innovation-là exactement?
Oui, c'est intéressant parce que c'est une, en fait, c'est un OBNL qui s'appelle OpenAI, qui est donc à but non lucratif et qui n'est pas une entreprise qui cherche à faire des sous avec ça.
C'est gratuit d'ailleurs.
Exactement, oui. Ça a été cofondé en 2015 dans la Silicon Valley à San Francisco et ça a été financé par des gens qui ont des poches profondes, notamment Elon Musk, qui, on sait, est un grand promoteur de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des entreprises, il y a des anciennes Google qui ont investi là-dedans. Il y a Microsoft aussi qui a mis $1 milliard il y a quelques années déjà. On connaît OpenAI dans le secteur technologique pour deux logiciels qui sont dans les technos, en tout cas très populaires. GPT-3, qui est la base de ChatGPT, qui est un outil de gestion de compréhension naturelle du langage. Et DALL-E, qui est un générateur d'images basé, encore une fois, sur le langage naturel, qui a comme un autre sujet complètement, mais qui est aussi très hot en ce moment. Ce qui fait que ChatGPT existe en ce moment, c'est qu'on est au croisement de deux courants de recherche en intelligence artificielle sur la compréhension naturelle du langage, qui est un truc qui est un des deux gros secteurs de recherche depuis toujours en intelligence artificielle. Même à Montréal, il y a des laboratoires en IA qui sont spécialisés et c'est une de leurs spécialités. Donc, c'est quelque chose qui nous touche même au niveau commercial ici à Montréal. Et l'autre partie, c'est cette espèce de tendance dans la nouvelle programmation qu'on appelle le no-code, c'est-à-dire apprendre à programmer sans avoir à créer du code. Et là, tout d'un coup, on a un outil qui combine les deux et fonctionne un peu comme par magie. Et ça permet justement de répondre à différentes questions. Donc, il y a un petit moment, il y a quelque chose de paradigmatique au fait que ça voit le jour en ce moment. Et clairement, c'est une application d'intelligence artificielle qui confirme le potentiel dont on parle depuis des années de cette technologie-là, puisque ça existe maintenant et ça fonctionne.
Et c'est quoi l'avantage pour OpenAI d'avoir rendu public une technologie qui est si puissante?
Bien, il y en a deux. Et évidemment, le premier, c'est que d'autres chercheurs ont accès à la technologie, donc peuvent l'améliorer. Qu'on soit chercheur ou développeur ou même juste curieux, si on accède à la plateforme et qu'on l'utilise, les gens d'OpenAI nous demandent aussi de donner notre opinion si la réponse est bonne. Donc, on peut aider à raffiner, disons, l'outil à travers la perception qu'on a de ses réponses. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant parce que ça vient, entre autres choses, d'Elon Musk. C'est cette volonté, et c'est très typique à l'intelligence artificielle d'ailleurs, de rendre publique la recherche pour faire avancer plus vite la recherche que font d'autres chercheurs. Je parle de Musk parce que du côté de Tesla, c'est ce qu'il a fait à peu près à la même époque là, de la fondation d'OpenAI en libérant un paquet de brevets sur la voiture électrique que Tesla possédait pour justement encourager les autres fabricants à se lancer dans l'électrique plus rapidement, parce qu'il y avait un effet d'entonnoir, de goulot d'entonnoir à ce moment-là où on n'arrivait pas à mettre en marché des véhicules comparables aux Tesla. Et tout ça, si on peut faire un parallèle, parce qu'en IA, c'était la même chose, c'est qu'à un moment donné, la recherche en silo ralentit l'émergence de la technologie comme telle. Et là, ce qu'on voit, c'est que ben, clairement, ça a été bénéfique à OpenAI parce qu'on arrive avec un outil là, qui est extrêmement puissant et qui fait vraiment parler dans le secteur de la recherche en IA aussi. Là. À peu près tout le monde en parle, même ici à Montréal, parce que c'est une des forces de Montréal, d'ailleurs, ce genre d'application-là là, de reconnaissance du langage naturel.
Donc, en faisant tomber tous ces murs-là, on est allé plus vite, on est allé avec un produit meilleur. Quoi.
Oui, meilleur et surtout qui va être testé plus durablement ou en tout cas plus sérieusement par des gens qui sont aussi des experts en recherche en intelligence artificielle.
On évoquait plutôt ce qu'on pouvait accomplir avec cette nouvelle intelligence artificielle-là. J'imagine que tu l'as testé toi aussi. À quel point est-ce que c'est performant, ça?
J'ai beaucoup de plaisir à l'essayer. Ouais. Le but, quand on l'essaie, c'est, je pense que tout le monde va essayer la même chose, c'est d'essayer de la prendre en défaut,
ouais.
D'arriver à lui faire dire quelque chose qu'elle ne devrait pas. Là où l'angle que j'ai pris, parce que le premier réflexe que j'ai eu en voyant ChatGPT, c'était de dire « Wow, pour un travail d'école, un travail de recherche, c'est fou parce que ça peut faire la job à notre place. » Donc, je lui ai demandé premièrement, c'est qui René Lévesque, pour savoir vraiment si elle avait une certaine connaissance de ce qui nous concerne, nous, ici au Québec. Et elle m'a répondu en deux paragraphes, son histoire publique, ce qu'on connaît de lui, le chef du Parti québécois, fondateur, ainsi de suite. Je suis allé un petit peu plus loin en me disant, bon, ben maintenant qu'on sait la politique québécoise, qu'est-ce qu'elle peut me dire sur l'histoire politique du monde? Donc, j'ai demandé de me résumer ce que pensait Jean-Jacques Rousseau de la séparation des pouvoirs dans l'État. Ce qui est quand même assez pointu, on s'entend.
Oui, quand même.
Et elle m'a vraiment défini que oui, effectivement, il était, lui, il voyait les choses avec une séparation, l'exécutif, législatif, judiciaire, ainsi de suite. Et c'est là où j'ai voulu la piéger en lui demandant est-ce que Thomas Hobbes, qui est un penseur qui est né un siècle plus tôt que Rousseau, est d'accord avec Rousseau, ou en tout cas aurait inspiré Rousseau. Et elle m'a dit, ben effectivement, dans son livre Léviathan, qui est vraiment son gros écrit, il parlait de l'importance de la séparation des pouvoirs, ce qui est malheureusement faux, parce que Hobbes est un absolutiste, il croyait plutôt qu'un leader fort et unique devait diriger l'État. Donc, elle n'a pas toujours raison. Cela dit, il y a plein d'autres choses plus accessibles, en fait, qu'elle peut faire aussi. Elle peut créer des recettes, si on lui demande, avec des ingrédients de base, ce qui est quand même en soi assez fou. Et on me dit aussi qu'elle peut écrire des chansons. Ça, moi, je n'ai pas essayé, mais elle peut même reproduire le style de certains artistes, un slam, un rap, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment bien des choses qu'elle peut faire.
Je propose qu'on teste. Attends, j'ai l'ordi ici avec ChatGPT dessus. Alain, un poème de 4 lignes peut-être sur quel thème?
Je ne sais pas. Sur le hockey, maintenant?
Sur le hockey. Le hockey, un sport intense où la glace est le terrain. Les joueurs sont rapides et habiles. Et le but est de marquer des points.
Hey, elle fait même rimer en plus.
Oui, bravo. Un autre? Alain, j'ai pas encore acheté tous mes cadeaux de Noël, alors je vais demander à l'intelligence artificielle de savoir qu'est-ce que je pourrais acheter pour ma mère. Alors, qu'est-ce que je pourrais acheter comme cadeau à ma mère? Il y a tellement de choses que vous pourriez acheter comme cadeau pour votre mère. Tout dépend de ses goûts et de ses intérêts. Bon, déjà, il y a du sens. Si votre mère aime les bijoux, vous pourriez lui acheter une jolie boucle d'oreille ou un collier. Si elle aime, c'est pas genré du tout, ça. Hein? Si elle aime les livres, vous pourriez lui offrir un livre qui l'intéresse. Si elle aime cuisiner, vous pourriez lui acheter un livre de recettes ou un ustensile de cuisine qu'elle n'a pas encore. Vous pourriez également lui offrir un abonnement à un club d'intérêt, comme un club de lecture ou un club de fitness. L'important, c'est de montrer à votre mère que vous l'aimez et que vous connaissez ses goûts et ses intérêts. Quand même, c'est joli.
On dirait pas un robot, en tout cas.
Non, ça, c'est vrai. Pour ce qui est de mon père, tiens, à mon tour, qu'est-ce que je pourrais acheter comme cadeau à mon père? Bon, il y a beaucoup de choses que vous pourriez acheter comme cadeau pour votre père, bien sûr. Tout dépend de ses goûts et de ses intérêts. Je pense que c'est la thématique dans le cadeau. Si mon père est un passionné de sport, vous pourriez lui acheter un billet pour un match de son équipe favorite ou un livre sur l'histoire de son sport préféré. Si votre père est un amateur de bière, vous pourriez lui offrir une caisse de sa bière préférée ou un kit pour brasser sa propre bière. Si votre père aime le jardinage, tiens, vous pourriez lui offrir des outils de jardinage ou des graines pour son jardin. L'important, c'est de trouver quelque chose qui corresponde à ses goûts et à ses intérêts pour lui montrer que vous le connaissez et que vous l'appréciez. Donc, on a la même petite morale à la fin, mais des suggestions assez concrètes et un peu genrées encore.
Un peu cliché, ben oui, voilà.
Donc, quand même. Décrocher la une revient après ceci. Bon, là, maintenant, on a bu la caisse de bière qu'on a offert à notre père. Mm. Mais il y a des limites quand même à cet outil-là. Là. C'est pas tout rose.
Hein. Non, il y a quand même des limites, c'est certain. Entre autres choses, la première chose, c'est qu'elle n'est pas au courant de l'actualité brûlante du moment.
OK.
En fait, elle se dit elle-même déconnectée d'Internet. Donc, elle a probablement filtré ce qui existe sur le réseau. Et elle dit qu'elle a arrêté de fouiner en 2021. Donc, okay. Ce qui est vraiment dans la dernière année, elle ne l'a pas. Évidemment, elle ne va pas faire de projection sportive non plus. On peut lui demander qu'est-ce qu'elle pense du Canadien. Elle va nous raconter l'histoire du club. Elle ne va pas nous dire cette année s'ils sont bons, s'ils vont faire les séries, quoi que ce soit. Elle peut se contredire aussi parfois, ce qui est un peu fâchant. Évidemment, tantôt, je parlais de l'exemple de Thomas Hobbs, mais ça, c'est assez pointu. Mais de façon plus générale, on lui avait demandé, entre autres, ce qu'elle pensait d'elle-même, comme son impact qu'elle pouvait avoir, par exemple, sur la société ou l'éducation. Et elle disait, ben, je peux représenter une menace réelle au modèle actuel. Puis on l'a challengé en lui demandant vraiment. Puis elle dit non, pas vraiment. En fait, je suis peut-être plus comme une occasion, un potentiel d'améliorer les techniques ou quelque chose comme ça. Donc, elle peut, des fois, dépendamment de comment on présente l'information, répondre de façon différente. Et il y a des, ben, il y a des choses, évidemment, qu'elle va pas nous dire. Elle n'a pas d'opinion comme telle. Notre collègue là, à la musique, Christophe Huss, lui a demandé si Yannick Nézet-Séguin est un excellent chef d'orchestre. Et elle dit, ben, je suis une intelligence artificielle, j'ai pas de goût musical particulier, je peux pas répondre à cette question-là.
Donc, il y a des limites quand même à ce qu'elle peut nous dire.
Exact.
Bon, si la prouesse de cet engin d'intelligence artificielle impressionne, il y a quand même de quoi mettre en garde des gens dans plusieurs domaines selon les observateurs. C'est inquiétant.
Oui, c'est un outil très général, mais il y a des applications concrètes qui inquiètent ou qui font sourciller. Mm-hmm. Un bel exemple, parce que c'est très facile à illustrer, c'est tout ce qui inquiète les programmeurs, ceux qui créent des applications, des sites web, des choses comme ça. Entre autres choses, comme on disait, premièrement, en termes d'ordre de grandeur, d'importance de phénomène, c'est qu'on compare ça au passage de l'ordinateur à la carte perforée, à l'ordinateur avec un clavier et une souris, en termes de prouesse en code, ce que ça représente pour un programmeur.
Okay.
Donc, ça a du potentiel parce que ça simplifie la programmation beaucoup, mais ça peut aller tellement loin que ça peut remplacer des programmeurs. Donc là, tout de suite, on s'inquiète là-dessus.
Dans des pertes d'emploi, là.
Bien, en partant, évidemment, il y a aussi la question de l'origine du code, à qui elle emprunte les codes qu'elle produit. C'est sûr que là, il y a une question peut-être pas nécessairement de droit d'auteur, mais quand même de propriété intellectuelle assez intéressante. Comme c'est du travail écrit, ben c'est des choses qui ressemblent beaucoup à des travaux qu'on fait à l'école et dans le secteur de l'éducation aussi. On se demande comment on va gérer ça, parce que là, tu le disais tantôt, on ne mettra pas le génie dans sa lampe, n'est-ce pas? Donc, c'est là et ça existe. Et dans le secteur de l'éducation, il y a notre collègue dans la salle, Anne-Marie Provost, là, qui a écrit là-dessus et qui a parlé avec des gens dans le secteur de l'éducation. Il y a d'ailleurs un groupe Facebook qui s'est créé dans quelques jours après l'existence, la naissance en fait de ChatGPT, là, qui regroupe 500 professeurs québécois qui s'échangent sur comment gérer cet outil-là, comment l'utiliser, heureusement, parce qu'il voit du potentiel. Mais évidemment, l'idée, c'est d'éviter la tricherie parce qu'il va être facile de créer des textes scolaires à partir de ça sans aucun effort.
C'est ça, parce que moi, je pourrais te demander, fais-moi un résumé, donc la naissance de la Deuxième Guerre mondiale, puis il va pouvoir m'expliquer ça.
Exactement. Et tu peux lui demander dans quel style, genre à la façon de quelqu'un, et tu peux aussi lui demander une certaine longueur sur 750 mots, sur 4 pages, des choses comme ça. Et ouais. Elle respecte les paramètres. Donc, effectivement, c'est inquiétant. Et comme ça revient, ça ne va pas disparaître, ce serait surprenant que ça disparaisse après tout ce que ça fait comme buzz depuis quelques jours. Il faut que les enseignants se questionnent sur comment l'intelligence artificielle peut être utilisée ou est-ce qu'il faut l'encadrer ou comment on revoit la façon dont on enseigne les choses pour éviter que ça devienne justement un risque ou une menace.
Oui, parce qu'après, les étudiants vont créer avec l'intelligence artificielle, les professeurs vont la corriger avec le même outil, puis personne n'aurait rien à apprendre.
Exactement, sauf l'intelligence artificielle qui, elle, se raffine à chaque fois.
On va lui donner un diplôme à la fin. Bon, tu parlais du juridique dans ça. Est-ce qu'il y a des balises? Est-ce que c'est encadré, là, l'utilisation du matériel?
Oui et non. Il y a des conditions d'utilisation. Évidemment, OpenAI sait très bien qu'il y a un risque avec son outil. Donc, elle spécifie de façon, je veux dire, assez précise là, les balises, disons le cadre qu'elle souhaite en fait imposer pour éviter les abus. Parce qu'évidemment, c'est là où on veut pas déraper, on veut pas voir l'outil déraper en termes de... Comme on peut créer du code, on peut créer du code malicieux.
Ah oui.
Donc, on veut éviter ça. On peut aussi, évidemment, reproduire, mais ça, c'est moins apparent. Mais on pourrait, disons, quand on dit on veut écrire quelque chose au style de quelqu'un, on peut peut-être reproduire une chanson au style d'un auteur connu. Et là, on vient un peu de se usurper, disons, la façon de faire de certaines personnes. Donc, la question, pas nécessairement de propriété intellectuelle, mais quand même de légitimité de l'outil est remise en question. Mais ça, c'est un peu limité par les conditions. Plus loin que ça, on parle beaucoup du droit d'auteur. Et ça, c'est très évident, plus du côté d'Ali, des outils d'image, parce que là, on connaît un coup, on reconnaît un style artistique d'un auteur connu plus facilement que dans du texte. Mm-hmm. L'outil ne crée pas nécessairement, ou en fait, ne reproduit pas du texte verbatim. Il n'y a pas de copier-coller dans cet outil-là, donc okay. Ça a l'air plus légitime de ce côté-là. Et naturellement, ce n'est pas un outil professionnel. Ce n'est pas un gestionnaire de portefeuille, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas même un médecin. Donc, les questions qu'on lui poserait sur la maladie, sur les traitements pour une maladie, sur les conseils d'investissement, si quelqu'un veut s'essayer, n'ont aucune valeur d'une certaine façon. C'est comme se parler à son voisin. Je veux dire, il n'y a pas de risque. Votre truc, il n'y avait pas de recours si quelqu'un faisait un geste mal avisé basé sur des conseils d'une intelligence artificielle comme celle-là. Et il ne faut pas imaginer que quelqu'un va essayer de poursuivre OpenAI parce qu'il a raté son coût en bourse. Là. Fait que ça, au moins, c'est bon. Mais on parle de choses juridiques. Il y a quand même quelque chose de non banal, c'est que l'outil peut servir dans des applications de droit déjà. Des gens ont essayé de créer, entre autres, des documents juridiques ou des documents qui permettent d'encadrer, par exemple, de créer une entreprise, un syndicat de copropriété, par exemple.
Une convention.
Exactement. Et elle le fait, semble-t-il, de façon impeccable. Elle respecte le formatage et la mise en forme et les différents éléments qui se retrouvent généralement dans des documents comme celui-là. Donc, peut-être que non seulement les avocats, mais les notaires aussi devraient regarder ça de plus près et peut-être qu'il y a des inquiétudes à avoir de ce côté-là aussi. Là.
Est-ce qu'il y a des lois qui existent pour encadrer ce genre d'outils-là?
Il n'y en a pas encore, mais c'est à l'étude. L'Union européenne est un peu la leader là-dedans. Il y a un projet de loi là-bas qui est à l'étude en ce moment pour être voté bientôt sur comment encadrer l'intelligence artificielle. Il y a le projet de loi C-27 au Canada aussi, à Ottawa, là, qui est en train d'être analysé. L'enjeu au niveau gouvernemental, c'est plus d'éviter en fait les biais, la discrimination, ces choses-là qui étaient des questions et qui sont encore là, de façon plus large dans le secteur de l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle a souvent été associée à une menace, mais avec l'arrivée de ChatGPT, est-ce que ces peurs-là sont justifiées? En fait, est-ce que les travailleurs doivent craindre le pire, Alain?
Certains travailleurs peut-être sont menacés. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et de robotisation comme d'un outil pour remplacer les travailleurs dans certaines applications spécifiques. Est-ce qu'un outil conversationnel peut le faire? Certainement, dans certaines applications, on le voit déjà avec ce qu'on appelait les chatbots, là, il y a, jusqu'à tout récemment, là, les outils de service à la clientèle automatisés pour sites web, où là, clairement, ça remplace des agents. Est-ce que ça remplace des agents tellement que ça permet à des agents de couvrir plus de terrain, de répondre à plus de demandes en même temps? Il y a certainement là une question de productivité où certainement ChatGPT va être une partie de la solution entre des outils comme celui-là. Est-ce que ça va voler des jobs? Ça, c'est une question qui reste ouverte parce qu'on ne le sait pas encore, mais ça a le potentiel de le faire.
En tout cas, j'espère, Alain, que l'intelligence artificielle ne te vole pas la tienne, ta job. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Je te dirais ceci, je peux lui demander de me faire mon CV, donc c'est correct.
Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Illina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.